Autrement, Christian avec vous sur votre radio fréquencier 97.9. C'est vrai, vous êtes de plus en plus passionné, vous nous appelez, vous nous dites oui, mais qu'est-ce que c'est intéressant, mais où vous allez chercher ces gens-là? Mais ils sont là, ils sont vivants, ils ont vie de citoyens lambda, ils mangent comme tout le monde, ils vont faire leurs courses, ils causent avec les gens, enfin on partage, ils partagent, et ils écoutent bien sûr fréquencier, et ça c'est tout à fait normal. Et à partir d'un certain moment, eh bien, ils ont tellement de choses à nous dire, ils ont tellement voyagé, soit dans leur tête, soit bien sûr avec notre ami Daniel qui est là, la bonne, toujours notre invité dans cette deuxième tranche de ce feuilleton autrement, eh bien on va continuer à parcourir ce chemin. Daniel Laborne, donc monsieur Daniel, lorsqu'il se balade sur les trottoirs de fréquencier, comment il voit les gens de notre terroir? Parce que quand on a beaucoup voyagé, on en a vu tellement de gens. Est-ce qu'ils sont très différents des autres?
Et d'abord, ils sont différents des Parisiens. Parce que j'ai beaucoup flirté avec Paris pendant toute ma vie. Mes meilleurs amis sont à Paris depuis 40 ans. Et c'est une autre raison pour laquelle je me suis installé en France. C'était pour me rapprocher de mes amis. Mais Paris, par exemple, je reviens d'une petite semaine à Paris, visiter mes amis et revoir un petit peu les choses, voir un peu le spectacle, voir le théâtre qui a repris après le confinement. Et donc, mais ce qui me frappe beaucoup, je viens d'écrire un poème dessus, c'est que les trottoirs sont bondés et les choses sont, comment je veux dire, il y a une frénésie permanente. Alors c'est très électrique et Assillez-nous, c'est tellement tranquille, je vais faire une balade, je marche pendant 20 minutes tous les jours, et en empruntant un petit circuit où je monte et puis je remonte, c'est-à-dire là où j'habite, il y a toujours une pente, une côte, donc je descends vers le château, je fais le tour, et je remonte vers la rue du Général de Gaulle, un peu essoufflé quand même à cause de mon âge, mais également à cause de la côte. Mais il arrive que pendant les 10-15 minutes ou les 20 minutes de marche, il arrive que je ne rencontre personne.
Ah oui.
Il y a quelques chats qui traversent la rue.
Ah quand même.
Voilà, il y a la voisine qui me voit arriver un petit peu par pitié et qui me dit « ça va, vous avez apporté votre téléphone au cas où, vous savez, à votre âge, il faut faire attention, gardez votre téléphone, etc. » Donc elle était pleine d'attention, mais au moins, comme vous voyez, donc, il y a la voisine qui est attentionnée et qui quand même surveille l'heure où son voisin va faire sa balade. Les gens, généralement, disent bonjour. Ça fait beaucoup de différence. Donc, à Paris, un bonjour, il faut le quémander. Curieusement, à l'île Maurice, qui est un pays magnifique, mes compatriotes, maintenant, lorsqu'ils vous voient arriver, vous les croisez, le bonjour est réticent.
Ah bon?
En tout cas, voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et c'est un des signes pour lesquels je ne me suis pas réintégré facilement. Tandis qu'à Sillé, c'est vrai, le bonjour est accompagné d'un sourire, c'est bienveillant, et croyez-moi, ça fait du bien.
Et est-ce que vous pensez que les gens, lorsqu'ils vous disent bonjour, on va parler de la voisine, ils ont envie de vous parler, ils ont envie de savoir un peu, mais c'est qui ce monsieur-là, d'où il vient, comment il est arrivé là? Vous ressentez ça ou pas, Daniel?
Tout à fait. C'est-à-dire, allons-y, pour le commun des Siléens, je suis peut-être un peu exotique.
Oui.
Je suis pas très grand, je suis noir de peau, je porte un chapeau, et puis je suis toujours un peu, comment je veux dire, un peu pressé, et puis un poème dans la tête. Donc je ne parais pas immédiatement disponible, ni très familier, mais le bonjour est bienveillant. Il m'est arrivé par exemple de croiser une dame deux ou trois fois, donc ça arrive, pendant ma petite marche de chaque jour. Et donc, et finalement, un jour, elle s'est arrêtée, elle me dit, c'est curieux, on se croise toujours dans la direction opposée. Moi, je reviens de mon travail parce que je pense que c'est une personne qui travaille dans une, comment on appelle ça ici? Elle s'occupe d'un vieux.
D'accord. Elle est aide familiale.
Voilà, aide familiale. Et donc, elle se présente et elle dit ce qu'elle fait. Et donc, elle repart chez elle en prenant le train ou en prenant je ne sais pas comment elle rentre chez elle. Mais moi, je remontais, moi, je lui dis, je ne travaille plus, je suis retraité, je fais ma petite marge et j'habite à côté. Donc, il y a eu un échange, 5 minutes, sympathique. Généralement, c'est ça. Je me sens bien accueilli et je ne me sens plus étranger. Et c'est beaucoup.
Oui, c'est énorme.
C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est-à-dire parce que je suis pas... J'ai envie de dire ceci, c'est, si je suis ici, c'est que je suis exigeant également. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui... D'abord, je travaille beaucoup. Ensuite, j'écris beaucoup. Et j'écris beaucoup sur ce que je vois, ce que je ressens. Donc, que ce soit au niveau de la poésie, que ce soit au niveau du théâtre, parce que je suis auteur dramatique, et que ce soit au niveau de là où va le monde. Et je ne crois pas du tout que le monde s'arrête avec soi. Je pense que le monde est pluriel et il faut aller vers le monde et comprendre que le monde, ce n'est pas soi, ce n'est pas ses parents, ce n'est pas d'où on vient, c'est autre chose. Et donc c'est cette manière, votre programme s'appelle Autrement, et donc il faut savoir vivre autrement pour vraiment se rapprocher de la vérité, d'une forme de vérité, voilà.
Quelle objectivité ! Être ouvert, participer, comprendre. Alors, on va rester sur sillé, parce qu'on vient d'arriver, tout cela. Alors, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, faut un peu parler de la bouffe, parce que on sait, bon, qu'on est tous, enfin tous, pas tout le monde, mais la plupart quand même des citoyens, des individus, aiment bien les bonnes choses. Et est-ce que sur cette ville de Sillé, vous sentez que l'artisanat encore du côté de la boulangerie, de la boucherie, enfin tous ces métiers de bouche, est-ce que vous, qui venez d'arriver, vous dites « Ah, ouais, ça existe encore ici, il y a encore de la culture de fond, ça mijote encore dans la casserole ?»
Je découvre, et on y va doucement. Parce que, d'une part, il faut être invité. Ce que je dois dire, c'est que, bon, déjà, on s'habitue, par exemple, à Oreillette du Mans. Mmh. Voilà, d'une part. Et deuxièmement, nous avons une voisine qui, elle, fait de la confiture à partir de tout.
Oh.
Et donc, c'est voilà. Et donc, et elle est très généreuse, parce que de temps à autre, elle nous apporte... par exemple, nous avons découvert qu'on peut faire de la confiture à partir des tomates vertes. Mmh. Nous, on ne le savait pas du tout.
C'est excellent, avec de la carotte.
Voilà, on ne savait pas du tout. Et donc, on découvre. Et puis, les gens sont généreux parce que non seulement ils le font, mais ils ne le gardent pas pour soi. Et ils arrivent, ils offrent aux nouveaux arrivés. Et nous arrivons. Voilà, on découvre comme ça. Et il y a un plat, je ne crois pas que j'ai retenu le nom.
Peu importe.
Mais je sais que chez le boucher, chez le boucher qui est en face de quoi en face de la boulangerie, sur la petite entrée. Donc il y a un plat spécial local, donc je n'ai pas retenu le nom, mais qu'on m'a fait goûter, que j'ai trouvé succulent.
Voilà.
Alors je pêche pas. Par oubli du nom exact. Mais voilà, la découverte est comme ça. Donc peut-être on se souvient du goût, mais on ne se souvient pas du nom. Voilà, mais on est dans la découverte.
C'est ça, dans la découverte, et puis on s'aperçoit par vos propos qu'en fin de compte, oui, c'est vrai, on critique beaucoup le monde de la campagne, oui. C'est vrai qu'il bon, s'y passe peut-être moins de choses qu'à une autre époque, mais il s'y passe encore beaucoup de choses. Et il y a encore beaucoup de professionnels dans les communes, dans les villages, qui œuvrent pour offrir aux citoyens de très très bonnes choses dans le domaine, bien sûr, élémentaire, alimentaire. Daniel Labonne avec nous sur votre radio Fréquencier 97.9, c'est notre invité dans Autrement, et quelle sympathique balade. Alors, on dit que dans les communes telles que celle de Sillé, ce qui gêne les gens, c'est ding, dang, dong, dong, dong. Les cloches qui sonnent, ça vous gêne, vous, ces cloches ?
Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, d'une part, je viens d'un pays où les églises, les temples, les mosquées, et les pagodes ne sont pas très loin les uns des autres.
D'accord.
L'île Maurice est un pays multiculturel et toute la population croit fermement. C'est-à-dire, une des forces des Mauriciens, c'est que c'est un peuple de croyants, on ne le dit pas assez. Mais en plus, ils croient dans tous les dieux de la terre et de l'outre-terre et d'ailleurs.
Encore mieux.
Encore mieux. Alors, ce qui fait que la cohabitation, mais j'ai une raison personnelle. Parce que, figurez-vous, jusqu'à l'âge de 10 ans, je suis un enfant de Port-Louis, qui est la capitale de l'île Maurice. Notre maison familiale se trouvait directement à l'arrière d'une église qui s'appelle l'église de l'Immaculée Conception, qui est une église catholique. Alors, ce qui fait que jusqu'à l'âge de 10 ans, ma vie était ponctuée par l'Angélus et par le son de la cloche. Ce qui fait que j'ai passé une cinquantaine d'années en manquant le son de l'Angélus et des cloches. Alors, ce qui fait que quand j'entends les cloches sonner régulièrement à Ciel Guillaume, ça me ramène à mon enfance.
Sympathique.
Et ça me rappelle également que je suis dans le lieu qu'il fallait.
Dites donc, que de choses. On sait que pour beaucoup de gens, le chant du coq, le beuglement de la vache, les cloches qui sonnent, alors qu'on est venu à la campagne, obligatoirement, et j'espère que notre campagne gardera toute cette réalité tonale, sonale, trébuchante, car il est vrai que ça fait partie du paysage, et le son, c'est important. Revenons au son, Ciel Guillaume. Vous avez dit tout à l'heure, Paris, ça bouge, c'est bruyant et tout. Scier le silence. Comment vous interprétez le silence de Scier? Comment vous le vivez? Comment vous le ressentez? En plus, vous êtes un poète. Est-ce que Scier a son propre silence?
Oui. Le nom d'abord est... On ne peut pas hurler Scier Guillaume. Il faut le murmurer. C'est une combinaison très curieuse. Quand on a lu... Il y a deux fois deux L, Scier le Guillaume, il y a deux fois deux L, et deuxièmement, c'est quand même curieux, on s'est dit, mais quel nom étrange. Et puis graduellement, on finit par s'y attacher, et le silence ne me gêne pas du tout, je pense que je le recherche, et j'en ai besoin. Je crois que, surtout au niveau de l'écriture, au niveau de la poésie, j'écris beaucoup, et je suis généralement quelqu'un de, comment je veux dire, j'aime le silence, j'aime le retrait. J'ai un paradoxe. Par exemple, j'ai été acteur, j'ai été metteur en scène, je suis écrivain de théâtre, je suis dramaturge. Donc on m'a dit que j'étais bon sur scène, il y a pas mal de critiques. J'aime la scène, mais je n'aime pas les applaudissements. C'est un de mes paradoxes. Peut-être que les applaudissements, ça fait trop de bruit et ça réveille le personnage et ramène l'acteur. Peut-être que l'acteur est un grand timide et qui aurait voulu se replier, etc. Mais le repli, pour moi, ça me plaît. Ce qui fait que le fait que la ville est géographiquement en repli, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir découvrir Scier pour le découvrir. Mais lorsqu'on le découvre, il y a un capital de discrétion, un capital de silence possible. Mais c'est un silence vécu, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire c'est qu'on découvre que derrière ces murs et ces rues relativement désertes, il y a quelque part, il y a des cœurs qui battent, il y a des choses qui se passent. Et puis, je découvre avec le château, par exemple, qu'il y a un passé que l'on voudrait ininterrompu. Il y a des gens qui aiment leur histoire et qui s'accrochent à leur version de l'histoire, et je découvre quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'est qu'il y a plusieurs France. Donc de loin, quand on est dans un pays comme l'île Maurice, qui en passant s'appelait l'île de France à un certain moment, et lorsqu'on est en Angleterre, il y a la France. Mais lorsqu'on habite Scier et qu'on écoute ce qui se passe, où le cœur des Scilléens, et lorsqu'on va au château de Scier, on réalise qu'il y a plusieurs France, et c'est déjà une éducation pour moi que de découvrir qu'il y a cette autre volée de la vie française, et c'est très intéressant de se sentir ignorant de temps à autre pour pouvoir combler le vide de l'ignorance et apprendre à comprendre un peu mieux où on se trouve et quels sont les gens qui nous entourent. C'est une découverte pour nous et c'est bien.
Ces strates culturelles de la culture, de nos terroirs. Je pense que, et j'espère que ça existe dans toutes les villes de France, petites, grandes ou moyennes, mais il est vrai que là on rappelle Daniel Labonne, notre invité, Angleterre, pays de joie, du soleil, île Maurice, Afrique, l'écriture, le théâtre, vraiment, je veux dire, multiculturel, une ouverture, une recherche permanente, c'est important pour, bien oui, pour vivre assillé. Alors, est-ce que le temps passe beaucoup trop vite? Je vous avais dit tout à l'heure, déjà une demi-heure, c'est pas possible. Mais là, on est presque au bout déjà, c'est la demi-heure. Donc, on va en faire plusieurs. Ça, c'est clair et net. Autrement, auditeur, auditrice, notre invité reviendra, j'en suis sûr. Est-ce que on a vécu 35 ans en Angleterre. Est-ce qu'on se dit que ici, scier, ça va être voilà, le dernier port, le dernier arrêt, ou est-ce que, on ne sait pas, est-ce que là aussi, c'est le voyageur, il se peut que, voilà, ou, un peu là, on peut y rester, pourquoi pas.
On souhaite que ce soit la dernière escale,
ah oui,
mais on ne sait jamais, c'est-à-dire que... Comment expliquer ça? Vous savez, il y a une combinaison de deux choses. D'une part, lorsqu'on est insulaire, on est né en quelque sorte dans une prison. C'est une prison géographique. C'est-à-dire, on ne peut pas s'évader parce qu'il y a la mer qui vous attend. Mmh. Et cette mer, elle est exotique pour certains, mais elle est également votre geôlière permanente et qui vous attend. Donc, vous ne pouvez pas aller très loin. Et donc, ce qui fait qu'il arrive que, surtout pour des pays comme l'île Maurice, où il n'y a jamais eu d'autochtones, il n'y a jamais eu de gens qui des natifs de l'île Maurice, tout le monde a été, en quelque sorte, catapulté à Maurice. Chacun était arrivé à son tour, et on a peuplé ce pays. Ce qui fait que, peut-être que, dans le fond de chaque insulaire à Maurice, il y a une prière secrète de pouvoir partir. Ou repartir, parce qu'on est arrivé de quelque part. D'une part, ça, il y a ce côté insulaire de vouloir partir. Maintenant, je suis quelqu'un qui ressent également, comment je vais dire, le mot, l'esclavage, par exemple. L'esclavage, ça fait partie de l'histoire de mon pays et mon histoire personnelle. Ce qui fait que quand je parle de marronnage, par exemple, il y a une telle soif de liberté qu'on n'en a jamais assez. Mmh. Voilà, ce qui fait qu'il faut marronner encore et encore, et il faut réinventer la liberté, parce qu'il faut... Et un poète ami à moi, un jour, il m'a dit « Nous sommes des fous de liberté ». C'est-à-dire qu'il faut plus de liberté, et de plus en plus, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est cette quête de liberté permanente, et de rechercher plusieurs définitions de la liberté, mais c'est subtil. C'est dans l'âme que ça se ressent, et c'est dans la vie, et c'est dans les yeux de l'autre que l'on sent que la liberté est vraie, elle est partagée, elle est partageable, elle est agréable. C'est comme la définition de la paix. C'est facile de décrire la guerre, de filmer la guerre, de raconter la guerre, mais qu'est-ce que c'est que la paix ? Comment est-ce qu'on définit tout ça? Donc la liberté, la paix, c'est une quête comme ça. Donc la réponse simple, on est arrivé à Ciel Guillaume, on écrit, on écoute, on, comme tout le monde, on subit la pandémie. Donc on laisse passer les choses, on laisse passer les années. Si tout se passe bien, oui, on restera à Ciel Guillaume. Si les amis se multiplient et qu'il n'y a pas d'ennemis, on restera, et surtout si l'écriture se bonifie et que on a, voilà, si l'écriture se bonifie au coin du feu qui, j'espère, va brûler bientôt dans la cheminée qui pour l'instant est éteinte. Donc si tout cela se réalise et que les amis continuent à nous rendre visite et aiment passer des séjours, parce que c'est vrai, hein, les amis qui arrivent de Paris ne veulent pas partir. Le dernier, je vous le garantis, est parti hier à midi.
Ah, ils ne voulaient pas partir.
Ils ne voulaient pas partir. Ils aiment s'y aller, malgré la pluie, et ils aiment. Ils viennent nous voir et ils cherchent des prétextes pour venir célébrer avec nous. Alors, ce qui fait que tout ça, c'est bon signe.
Bon.
Ce qu'il faut, donc, je dirais que si El Guillaume, ça devrait être dans notre maison atypique. Pour ma femme et moi, ça devrait être le lieu où on va tranquillement vieillir et...
Et grandir encore.
Et grandir encore. C'est ça l'idée.
Que de belles choses avec notre invité. Écoutez quand même, auditeur, vous qui écoutez votre radio locale, eh bien vous n'êtes pas dans un bocal, il n'en est pas du tout question, vous êtes tout à fait en dehors, puisqu'on vous offre énormément de voyages à travers nos rendez-vous, nos rencontres, autrement, autrement, autrement. Daniel, encore une fois, là on l'a dit, on le redit, ça passe trop vite. Il nous reste encore quelques minutes pour cette deuxième tranche, et il y aura une troisième tranche, car je crois que là, c'est vrai, c'est passionnant, parce que vous êtes passionné, et c'est très intéressant, bien sûr, même merci. Pour l'animateur, parce que c'est vrai aussi qu'un animateur, il aime bien rencontrer des gens passionnants, mais c'est vrai que la plupart des invités sont passionnants, mais ô combien différents les uns des autres. Alors vous, l'écriture, tout cela, dernier petit point, est-ce que vous avez un peu déjà feuilleté s'il y avait sur, en dehors des gens que vous connaissez, là bien sûr, car je sais que c'est un milieu de gens de l'écriture ou de peinture, enfin de gens d'art, mais est-ce que vous avez déjà un peu trouvé, retrouvé trace d'écrivains locaux ou pas, ou est-ce que pour vous, pour l'instant, c'est pas, vous n'avez pas assez de temps, et c'est pas obligatoirement là que vous mettez votre temps, puisque vous, vous avez envie d'écrire. Est-ce que vous faites des petites recherches de ce côté-là?
Ah oui, bien sûr, mais j'en suis à mes premiers balbutiements. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on arrive avec un bagage. Hein. Il faut dire qu'à mon âge, on a, avec tout ce que nous avons fait, donc il y a un certain bagage qui fait qu'il faut quand même entretenir. Il faut essayer de ne pas jeter par-dessus bord ce que nous avons emmagasiné pendant notre vie. Donc, ce qui fait que je lis beaucoup, mais je dois lire en anglais. Donc, ma recherche continue par rapport au développement culturel en Afrique. Et ma création, artistique, ma recherche artistique continue par rapport à ce que j'ai fait à Maurice. Et donc, ça a un nom, par exemple. Et puis, le travail poétique, également, je pense que c'est le travail poétique qui graduellement s'imbibe plus rapidement de l'environnement nouveau. Je peux vous dire par exemple que nous sommes partis avec Bernard Victor et avec Lydie, on a été rendre une visite au château de la Sauge, c'est comme ça que ça se dit ?
La Sauge ?
La Sauge, c'est la Sauge. Et donc et j'ai pondu un poème à partir de quelle est cette fleur qu'ils... donc, ils ont transformé les pivoines.
Ah,
voilà, les pivoines. Donc, les propriétaires du château, ils ont transformé le... Je cherche le mot français.
La cour.
Comment vous appelez la partie qui entoure le château?
Ah oui, où il y avait de l'eau, là, en dehors des remparts.
Il y a un nom pour ça.
Cher Nicolas, à la technique, je rappelle, ça s'appelle les douves.
Les douves.
Voilà.
Bravo, bravo. Les douves.
Culture.
Voilà, absolument. Donc, je n'ai pas de culture de château.
Non, ben ça va.
Voilà. Donc, chez moi, tout autour, c'est la canne à sucre. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, les douves ont été reconverties en parterre de pivoine, mais de manière systématique, de manière scientifique, etc. Donc, c'est tellement beau que j'ai pondu un poème. Ce qui fait que la réaction se fait comme ça. C'est-à-dire, on découvre... on découvre les chapelles, on découvre les douves, on découvre les colombiers, y a plein de choses. Et puis avec la poésie, j'essaye de suivre. Maintenant, est-ce que j'ai découvert? Non.
Pas encore.
Pas encore. Par contre, la semaine prochaine ou cette semaine, je vais me rendre au Salon du Livre du Mans.
D'accord, oui, très gros salon, très beau
salon. Voilà, donc c'est une nouvelle pour moi et c'est certainement une manière pour moi de me rapprocher de ce qui se passe et de comprendre un peu quelles sont les grandes mouvances. Et je ne doute pas qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, mais vous savez, au bout d'un an et demi, on ne peut pas avoir tout compris. Je commence tout juste à entendre la musique ambiante de la ville et du coin. Il y a tout à découvrir. Voilà. Mais pour l'instant, tout se passe bien et je vous remercie.
Eh bien, bravo, Daniel, d'avoir été aussi, je veux dire, aussi sympathique dans vos propos, et j'en suis persuadé, ça doit surprendre les auditeurs de Fréquencier, car on le sait, les gens ont toujours des choses à dire, ô combien désagréables rapport à leur pays, celui d'à côté est beaucoup plus beau, la commune d'à côté, oh là là, il s'y passe tellement de choses, chez nous il se passe rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de boucher, il n'y a plus de boulanger, on ne sait plus rien faire. Non, non, vous venez de l'entendre avec les propos de Daniel Labonne, notre invité, il est arrivé accidentellement à Ciel-Guillaume, et fait du hasard, on peut dire que tous les paramètres se sont retrouvés, tous les cycles, tous les signaux, toutes les pierres, toutes les astres, bang, c'était là et pas ailleurs. Maintenant, on y vit pleinement, on y est très très bien. On se retrouvera, Daniel, pour parler, pour continuer, pourquoi pas aussi à parler. On parlera du livre, du bouquin, donc ce sera bien sûr du côté d'un autre thème qu'on aborde aussi fréquemment sur Fréquencier à travers mes petites tranches d'émissions. Mais on reviendra aussi un peu sur votre histoire, parce que vous êtes quelqu'un de la culture, vous avez beaucoup vécu dans la culture, la francophonie entre autres, vous avez voyagé, l'Afrique, on reparlera d'Afrique, monde qui doit être ô combien merveilleux. On reparlera aussi de l'Angleterre, parce que là, on survole, voilà, mais je pense qu'on va pas s'arrêter. Pour vous, le fait de rencontrer une radio, il nous reste deux petites minutes, est-ce que ça vous fait plaisir de rencontrer une radio dans un petit patelin comme à Ciel-Guillaume ?
C'est un étonnement total, et c'est une agréable surprise. Et c'est même une découverte, parce que lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai réalisé que cette radio est une innovation, même au niveau national, possiblement au niveau international, parce que, ben, croyez-moi, c'est la première fois que j'arrive à une station de radio, et je dois traverser la grille parmi les élèves et les étudiants. C'est très très rare, c'est très curieux, et je pense que c'est un phénomène assez nouveau qui m'intéresse beaucoup, mais qui me signale également qu'il y a des spécificités à scier et qu'il ne faut pas se fier au trottoir vide, il y a autre chose à découvrir, et je suis là pour découvrir.
Merci beaucoup, Daniel. Allez, auditeurs et auditrices, on s'est dit à bientôt, toujours dans Autrement, votre émission. D'autres rencontres, d'autres rendez-vous, d'autres parcours. Mais je pense qu'avec Daniel, on va faire, une suite de feuilletons, de rendez-vous. Et peut-être aussi, on lancera, pourquoi pas, pour les gens qui désirent garder ces émissions, je m'en suis aperçu, puisque là, on sort de Nuit Blanche, eh bien, qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment le son et qui aiment la voix. Et c'est très 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 intéressant. On peut dire que moi je suis un fou de la culture vivante, je suis un fou de la culture orale. Eh bien oui, la culture orale renaît de ses cendres. Et j'ai envie de dire bravo, bravo aux radios que nous avons créées, car j'en fais partie il y a 40 ans, car je crois qu'on a changé l'oreille et le fait de la réception des citoyens. La citoyenneté par l'oreille, ouh, ça existe. Bye bye et à bientôt.
Au revoir.